Bonjour, je vous remercie de votre invitation et de votre présence. J'assume totalement mes deux casquettes, celle du politologue spécialiste de la mondialisation et celle du citoyen engagé. J'ai été pendant de nombreuses années président pour la France d'une toute petite ONG, le Centre Europe Tiers Monde, dont la devise est « il n'y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé ». Lorsque j'ai passé le relais, j'ai travaillé ensuite aux côtés de la mission interministérielle de lutte contre les sectes, mais avec une grille d'analyse un peu particulière, puisque pour moi les grandes sectes ne sont pas un cancer sur un corps sain, mais les métastases d'une société malade. Et de l'étude de ce symptôme de la modernité, j'en suis venu à l'étude d'autres symptômes de cette même modernité, la malbouffe, l'agression publicitaire, le harcèlement au travail. Et ma rencontre avec ce qu'on nomme, faute de mieux, la décroissance, a été pour moi une façon de mettre de l'ordre à la fois dans mes idées et dans mes engagements. Einstein disait que tant qu'on a la tête sous forme d'un marteau, on voit tous les problèmes sous forme de clous. Tant que nous aurons la tête formatée par l'économisme, c'est-à-dire par cette idée que plus serait forcément égal à mieux, on ira chercher la solution à tous les problèmes dans le toujours plus. Toujours plus de production, toujours plus de consommation. Les objecteurs de croissance, les anti-productivistes, les anti-consuméristes, peu importe le terme qu'on utilise, ne sont ni des professeurs Folding, ni des durs à jouir, qui se complairaient dans l'annonce imminente de la fin du monde. Nous disons pourtant qu'il faut en finir avec le culte de la croissance, quelle que soit sa couleur politique. Qu'il s'agisse de la croissance bleue, avec la droite ou le patronat, de la croissance rouge, rose, verte ou orange. Et pour cesser de croire dans les miracles de la croissance, il suffit finalement de cesser de refouler ce que nous savons tous déjà et qui tient en deux chiffres. 20% des humains dont nous sommes s'approprient aujourd'hui 86% des ressources planétaires. Imaginez que vous invitiez à votre table 4 personnes, vous avez un gâteau, vous faites 5 parts, vous mangez les 4 premières et vous laissez la dernière part aux 4 autres. Voilà aujourd'hui la situation planétaire. Alors ce n'est pas très joli par rapport à nos grandes valeurs comme l'égalité ou la fraternité, mais ça ne serait pas forcément si grave si on pouvait avoir l'espoir d'un rattrapage possible. Si on pouvait avoir l'espoir que le gâteau, le PIB mondial, puisse grandir indéfiniment et démesurément. Et c'est là où on tombe sur le deuxième constat. Si 6 milliards d'humains vivaient comme nous, une seule planète Terre ne suffirait pas. Il en faudrait plus de 3 si on adoptait les standards de vie d'un Belge, et presque 7 si on adoptait les standards de vie d'un Américain. Autrement dit, la croissance économique, ce toujours plus, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution, bien sûr, pour les pays opulents, mais ce n'est pas la solution non plus pour les pays pauvres qui devront inventer d'autres façons de satisfaire les besoins fondamentaux de l'humanité. Je ne suis pas partisan de la décroissance parce qu'il y a le feu à la planète. Je suis objecteur de croissance car je souhaite ce que les Grecs anciens appelaient l'eudémonia, c'est-à-dire une vie bonne. Quand on parle de société de consommation, quand on parle de société productiviste, quand on parle de société capitaliste, c'est en fait un abus de langage. Ce monde économique, ce monde productiviste ne parvient plus à faire société. Ce monde ne réunit plus les conditions minimal du vivre ensemble. Ce qui caractérise ce monde du toujours plus, c'est la déliaison sociale, c'est la désymbolisation, la déritualisation. le développement des violences, des incivilités. On peut prendre l'exemple de la table pour illustrer. La table des pays pauvres est souvent la plus riche sur le plan culturel, sur le plan humain, sur le plan des rituels, sur le plan de la symbolique. Alors que la table des pays riches est la plus pauvre sur le plan culturel, sur le plan symbolique, sur le plan des rituels. Notre société de consommation n'est en fait pas une société où on consomme plus que dans une autre. Ça, c'est l'apparence. La société de consommation, c'est une société qui repose sur la casse, la perte des cultures traditionnelles et des cultures populaires. La société de consommation, c'est le fait d'avoir inventé d'autres types de rapports aux objets. On n'a par exemple jamais consommé une serpillière, on l'utilise. La société de consommation, c'est le fait de faire primer l'accumulation, le paraître sur l'usage des choses. Et cette société de consommation n'aurait pas pu exister sans, d'une part, la standardisation des styles de vie et sans, d'autre part, la dictature publicitaire. Standardisation des styles de vie, c'est-à-dire destruction des façons autres d'être au monde. Prenons là encore l'exemple de l'alimentation. Auparavant, on opposait le lapin paysan, le porc ouvrier, le veau bourgeois. C'est-à-dire chaque milieu social avait sa propre table avec la même authenticité, la même fierté. Aujourd'hui, c'est poulet pour tout le monde. Mais ce n'est pas le même. Pour certains, c'est du poulet fermier. Pour d'autres, du poulet de batterie. Ça veut dire que les cultures populaires sont devenues des sous-produits de la culture dominante. Et qu'on a perdu effectivement en authenticité, en fierté, on a perdu en diversité. Standardisation des styles de vie, mais également dictature publicitaire. Cette société de consommation n'existerait pas sans l'agression publicitaire. La publicité entretient toujours une double illusion. Il y a d'abord l'illusion ancienne que le bonheur serait dans la consommation, comme si posséder 10 paires de baskets permettait de courir 10 fois plus vite. Il y a une illusion beaucoup plus récente, beaucoup plus perverse. C'est l'illusion qu'il serait possible de compenser la perte des repères de sens, la perte des valeurs, la perte des identités, par la consommation de produits de marque, et notamment de marques vestimentaires. Regardez comment les grandes marques vestimentaires se sont mises à fonctionner comme des béquilles pour des individus en souffrance. Demandez à un gamin qui porte une casquette avec un logo pourquoi il a acheté cette casquette. Il vous dira jamais, c'est parce qu'elle protège plus de la pluie ou du soleil. Il va vous dire, c'est pour faire comme les autres. C'est ce que Lipovetsky théorise derrière la notion de capitalisme expérientiel. Il n'y a pas très longtemps, dans le cadre d'une émission sur France Inter, on a interviewé des gamins à la sortie d'un collège, et le journaliste demande à un petit gamin, 10-12 ans, « Et si les marques n'existaient pas, qu'est-ce que tu ferais ?» Le gamin a répondu, « Je porterais des vêtements. » Mais je dirais que cette réponse, ça vaut tous les cours de philo. C'est-à-dire qu'il avait parfaitement compris ce qu'était la différence entre l'usage et ce qu'on pourrait appeler le mésusage, c'est-à-dire ici, l'importance du paraître. Je crois qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à dénoncer cette idéologie publicitaire. Je vais prendre simplement un exemple d'une publicité qui passe actuellement sur les écrans. C'est une publicité pour une marque de voiture. On voit une famille traditionnelle, papa, maman, et les deux enfants. Bien sûr, c'est papa qui conduit. Et papa a une vieille voiture. Et papa, avec sa vieille voiture, il veut doubler un camion. Avec tout ce que le routier peut symboliser de puissance virile, machiste. Et papa, avec sa vieille voiture, il n'y arrive pas. On aperçoit d'abord le regard courroucé de son épouse. Qu'est-ce que c'est que ce conjoint qui n'y arrive pas? Et au bout d'un moment, on entend les enfants qui se mettent à chanter. Papa, il peut pas, papa, il peut pas. Papa, il peut pas, c'est papa, il en a pas. Et papa, s'il veut en avoir, c'est simple, il a qu'à changer de voiture. C'est-à-dire, c'est le produit qui fait l'homme, c'est le produit qui définit l'homme. Le mot de mannequin, c'est un mot d'origine danoise, qui est passé en langue française, et au départ, ça signifie ébauche d'humain, esquisse d'humain, humain pas fini, que fini le produit. Les objecteurs de croissance, vous l'avez déjà compris, ne sont pas partisans de la décroissance faute de mieux. Même s'il était possible de produire et de consommer toujours plus, surtout si c'était possible, ça serait pour nous une raison suffisante de le refuser pour pouvoir rester tout simplement des humains. Notre société a totalement sombré dans ce que les Grecs anciens appelaient l'hubris, la démesure. Nous avons perdu la capacité à nous donner des limites. Lorsqu'un individu, lorsqu'un enfant n'est pas capable de se donner des limites, il va les chercher dans le réel. C'est le développement des conduites à risque. C'est le développement de la toxicomanie. C'est le développement du suicide chez les plus faibles. Et lorsqu'une société comme la nôtre n'est pas capable non plus de se donner des limites, elle va aussi les chercher dans le réel. C'est l'épuisement des ressources. C'est le réchauffement planétaire. C'est l'explosion obscène des inégalités sociales. La grande question pour le XXIe siècle, c'est cette capacité à renouer avec le sens des limites. Et pour ça, il faut en finir avec la domination de l'économisme et il faut faire primer la culture et le politique. Parce que la culture, quelle qu'elle soit, c'est toujours ce qui nous immunise contre les fantasmes les plus archaïques. Le culte de la toute-puissance, l'idée d'un monde sans limites. Et puis la politique. La politique, c'est d'abord la définition de la loi. La loi, c'est la première limite que je rencontre tous les matins dans la rue. C'est peut-être pas toujours plaisant, mais c'est indispensable. Ce qui pose bien sûr la question du contenu de cette loi. Est-ce que c'est une loi qui est faite dans l'intérêt du plus grand nombre et notamment des plus faibles? Ou est-ce que c'est une loi qui est faite dans l'intérêt d'une petite minorité? Les vraies limites au toujours plus, au encore plus, elles ne sont pas d'abord techniques, elles ne sont pas d'abord naturelles, elles sont d'abord humaines. Jusqu'où aller sans péter les plombs? Jusqu'où aller dans ce que le grand romancier Miller appelait un cauchemar climatisé? Jusqu'où aller dans ce cauchemar climatisé en préservant tout simplement le désir de vivre? Vous l'avez compris, la décroissance, ce n'est pas un discours écolo plus dur, plus hard que les autres. C'est la tentative de penser ce qu'il peut y avoir de commun entre une série de grandes crises. La crise environnementale, la crise sociale, la crise du politique, la crise institutionnelle, la crise de la symbolique. Prenons la crise environnementale. Quand on parle de crise environnementale, on est en fait un peu court sur pattes. Ce qui nous menace, c'est un véritable effondrement environnemental. Et c'est la capacité même de poursuivre l'aventure humaine dans de bonnes conditions qui est de plus en plus posée. L'humanité se trouve aujourd'hui coincée entre deux enjeux. D'un côté, l'épuisement des ressources, de l'autre côté, le réchauffement planétaire. Et le pire, c'est que toute solution qu'on pourrait tenter d'apporter aujourd'hui pour compenser la disparition programmée des ressources naturelles ne peut que contribuer à des changements climatiques majeurs. Tous les indicateurs sont en train de virer au rouge. L'érosion de la biodiversité. Prenez les travaux de la dernière convention internationale sur la biodiversité. On nous rappelle que la Terre est entrée dans la 6e grande phase d'extinction des espèces. La 5e phase d'extinction des espèces, c'était il y a 65 millions d'années, la disparition des dinosaures et de presque 50% des espèces alors existantes. Ce qui est grave, c'est pas qu'il y ait des espèces qui disparaissent, c'est le rythme et la nature de cette disparition avec le problème du chaînon manquant. Un mammifère sur 4 est menacé, un amphibien sur 3, un oiseau sur 8, un poisson sur 3. Et le Fonds agricole mondial nous dit que si on poursuit les tendances actuelles, eh bien d'ici 50 ans, nous aurons perdu 70% des espèces animales et végétales actuellement utilisables pour l'alimentation humaine. Je dirais que le vrai problème, le grand problème, c'est pas tant celui du pétrole que celui de l'alimentation. L'alimentation a toujours était pensée dans l'histoire de l'humanité pour produire des calories. L'alimentation productiviste qui est la nôtre, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, consomme plus de calories qu'elle en apporte. la chaîne agricole américaine consomme 20 fois plus de calories qu'elle en apporte, et l'alimentation a été classée problème de sécurité nationale aux États-Unis depuis que la CIA a établi que les aliments effectuent en moyenne 1700 km. Le pot de yaourt que vous avez peut-être mangé à midi parcourt à travers ses multiples composants plus de 6000 km. Mais je dirais, tous les chiffres ne sont pas tristes. Le programme des Nations Unies pour l'environnement nous rappelait l'an dernier qu'un tiers de l'agriculture mondiale est gaspillée. Gaspillée au niveau de la production, parce que les produits sont considérés comme non suffisamment standardisés. Gaspillée au niveau de la distribution, gaspillée au niveau de la consommation individuelle. Aux États-Unis, en Angleterre, c'est plus de 40% de l'alimentation qui est consommée. Résultat, le programme des Nations Unies pour l'environnement nous le dit, on peut nourrir 10 milliards d'humains. On peut nourrir 10 milliards d'humains, bien sûr en changeant d'alimentation, en allant vers une alimentation moins carnée, en allant vers une alimentation relocalisée, en allant vers une alimentation resaisonnalisée, en allant vers une alimentation moins gourmande en eau, en allant vers une alimentation assurant la biodiversité, et en allant vers une alimentation de type biologique. À côté de la question de l'alimentation, l'autre grand problème, c'est la question d'eau potable. Daniel Mitterrand rappelait récemment dans les colonnes du sarcophage que la quantité d'eau potable par habitant va diminuer d'un tiers dans les 20 ans et de 50% dans les 40 ans. Mais là encore, cette pénurie d'eau potable n'a rien de naturel. La population mondiale a été multipliée par 3 en 100 ans. Notre consommation d'eau a été multipliée par 7. Il n'y a pas de limite objective à cette surconsommation d'eau. Pensez qu'un Américain consomme presque 3 fois plus d'eau qu'un Européen. Conséquence, l'Organisation mondiale de la santé nous dit, nous aurons d'ici 50 ans 500 millions à 1 milliard d'humains en état de pénurie et 2,5 milliards en situation critique. Alors, est-ce que les usines à dessaler seraient la solution? Non, pour deux raisons. Tout d'abord, une raison de coût. Oui, peut-être, on pourra faire pousser nos tomates immondes dans le sud de l'Espagne avec des usines à dessaler. On n'abreuvera pas l'Afrique avec des usines à dessaler. Et puis, par ailleurs, si on devait généraliser les usines à dessaler, on se retrouverait avec des quantités phénoménales de saumure et le sel viendrait soit polluer les terres agricoles, soit il faudrait le rejeter à la mer, ce qui aggraverait les conséquences du réchauffement en matière de niveau d'élévation des mers. Le deuxième grand enjeu, effectivement, c'est la question du réchauffement. Et quand on parle de réchauffement planétaire, c'est pas simplement qu'il fera un peu plus chaud l'été. Là encore, c'est la possibilité même de penser une terre pour l'humanité, et je mets des tirets entre terre et pour l'humanité, qui se trouve posée. Les scientifiques sont particulièrement inquiets face à l'évolution des courants maritimes horizontaux. Vous avez deux types de courants maritimes. Les courants maritimes comme le Gulf Stream, si effectivement le Gulf Stream devait céder, c'est pas la fin du monde. Ça veut dire que la France se retrouverait par exemple avec un climat de type sibérien. La grande inquiétude des scientifiques, c'est l'affaiblissement des courants maritimes verticaux. Ces courants maritimes verticaux piègent dans les profondeurs océanes des quantités extraordinaires d'hydrate de méthane, qui est un gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que les autres. Et si ces hydrates de méthane devaient refaire surface, et on a actuellement un certain nombre de puits qui deviennent des sources, et on voit apparaître des cheminées, eh bien je dirais que c'est plus la peine d'en parler, puisque la Terre se retrouverait avec une température de plusieurs centaines de degrés. Mais je dirais que la vraie bonne question, c'est pas de savoir quand le ciel va nous tomber sur la tête. La vraie bonne question, c'est de savoir jusqu'à combien on peut émettre chaque année de carbone pour rendre à nos enfants une terre qui soit encore viable. Et là, il y a un chiffre qu'il faudrait presque inscrire sur le fronton de nos bâtiments publics. C'est la quantité totale de carbone que la Terre peut digérer chaque année. On sait que la Terre ne peut pas digérer plus de 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone. Et si je traduis toutes nos activités, le fait de manger, de s'habiller, d'avenir à une conférence en équivalent carbone, si je dépasse ce maximum de 3 milliards, on bousille les écosystèmes. Depuis les années 70, on a dépassé ce maximum. Nous en sommes aujourd'hui à 6,8 milliards de tonnes d'équivalent carbone. Plus du double de ce que la Terre peut digérer. Prenons au sérieux ce maximum de 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone pour 6 milliards d'humains. Le calcul est vite fait. Ça nous donne 500 kilos d'équivalent carbone par personne et par an. Si je dépasse ces 500 kilos, il y a deux solutions. Soit je prends sur la part des plus faibles, les Africains, soit je prends sur la part de ceux qui n'ont pas encore la parole, les générations à naître. Et 500 kilos d'équivalent carbone, c'est quoi? C'est par exemple un vol en avion aller-retour Paris-New York. 543 kilos d'équivalent carbone. C'est-à-dire si je prends une fois l'avion dans l'année, il faut arrêter de manger. C'est 5000 kilomètres par an en voiture. Et lorsque je donne ces chiffres, je ne cherche sûrement pas à culpabiliser quiconque. Pour porter ce discours, je fais beaucoup plus de 5000 kilomètres par an en voiture. Ces chiffres nous montrent à la fois l'urgence et l'ampleur du changement. Mais ils nous montrent surtout que la solution, ça ne peut pas être de faire la même chose en moins. Ce n'est pas en apprenant à se serrer la ceinture, un peu, beaucoup, passionnément, ou à la folie qu'on y arrivera. C'est en inventant des modes de vie radicalement différents. Ces 500 kilos d'équivalent carbone, c'est aussi, par exemple, l'achat, enfin, la fabrication d'1,5 micro-ordinateur à écran plat. C'est aussi 200 clics par jour avec notre petite souris sur Internet, puisqu'on sait que chaque clic sur Internet représente en moyenne 7 grammes d'émissions de carbone, c'est-à-dire la moitié de l'utilisation d'une bouilloire électrique et l'équivalent d'une heure de fonctionnement d'une ampoule. Donc effondrement environnemental, mais aussi effondrement social. Le choix pour l'immense majorité des humains n'est pas entre le toujours plus, la croissance, et ce qu'on appelle la décroissance. Le choix pour l'immense majorité des humains, ça va être entre la croissance négative, la récession, le chômage, la misère qui chasse la pauvreté, et autre chose qu'on appelle pour l'instant la décroissance. Notre société s'est monstrueusement habituée aux inégalités sociales. Pensez que les trois familles les plus riches à l'échelle mondiale ont un revenu supérieur au PIB total des 48 pays les plus pauvres. Trois familles d'un côté, 48 pays d'un autre côté. Pensez également que 2% de la population dont nous sommes s'approprie la moitié du gâteau mondial et que 50% de la population mondiale ne détient qu'un pour cent du gâteau. Et il y a trois chiffres que j'ai trouvés récemment qui m'ont fortement perturbé. Si vous avez un patrimoine, c'est-à-dire l'ensemble de vos biens accumulés, vos biens fonciers, votre électroménager, votre voiture, si vous avez un patrimoine personnel de 5650 euros, il y a plein d'enfants qui ont plus de 5000 euros. Si vous avez un patrimoine de plus de 5650 euros, vous faites déjà partie des 50% les plus riches de la planète. Si vous avez un patrimoine de 45 000 euros, même pas le prix d'un petit studio dans une grande ville, vous appartenez aux 10% les plus riches de la planète. Et si vous avez un patrimoine de 375 000 euros, le prix d'un joli pavillon, eh bien vous appartenez aux 1% les plus riches de la planète. Là encore, il ne s'agit sûrement pas de culpabiliser. Il s'agit tout simplement de se rendre compte que les recettes qui sont les nôtres ne sont pas généralisables. Et comme nous le disait Kant, ce qui n'est pas universalisable n'est pas défendable sur le plan moral. Et pourtant, la planète est assez riche pour nourrir tous ses enfants. Diouf, le patron de la FAO, rappelait l'an dernier que pour que plus personne ne meure de faim à l'échelle mondiale, il suffirait de mobiliser chaque année 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars et plus personne n'a mort de faim. Ces 30 milliards de dollars, on ne les trouve pas. Les budgets officiels de l'armement mondial, 1200 milliards de dollars. Budget publicitaire mondial, 900 milliards de dollars. Marché des stupéfiants, 800 milliards de dollars. Et on vient de dépenser des milliers de milliards de dollars pour tenter de sauver le système financier. On le voit, le problème, ce n'est pas un problème de moyens. Ce n'est donc pas un problème de croissance. C'est un problème de partage. Mais c'est aussi un problème de recette de ce gâteau. Parce que le gâteau actuel est empoisonné. Il n'est pas partageable. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on produit, pour qui, comment. Le PIB mondial, en 2008, était de 70 000 milliards de dollars. Soit 10 400 dollars par personne, par terrien, et par an, soit l'équivalent de 800 euros par mois. Et si on raisonne en termes de niveau de vie par unité de consommation, par ménage, il serait environ de 1200 euros par mois. Là encore, on le voit, la planète est assez riche pour nourrir, effectivement, l'ensemble de ses enfants. Crise environnementale, crise sociale, crise politique également. La gauche et la droite, par-delà toutes leurs différences essentielles, mais la gauche et la droite partagent le même bilan effroyable en matière environnementale. Ces deux systèmes ont pillé la planète pour nourrir leurs machines productivistes. Mais ces deux systèmes ne se trouvent pas aujourd'hui dans la même position. Les gauches internationales sont aujourd'hui largement à faune parce qu'elles ne savent pas comment concilier les contraintes environnementales avec le souci de justice sociale et le besoin de reconnaissance face à une société du mépris. Les droites, les milieux d'affaires, eux ont un vrai projet, ce qu'on appelle le capitalisme vert. Et le capitalisme vert, c'est cette volonté d'adapter la planète, d'adapter l'écologie et d'adapter, si nécessaire, l'humanité aux besoins du productivisme, aux besoins du toujours plus. Adapter la planète, prenez les 500 projets les plus financés aujourd'hui à l'échelle internationale. Vous verrez, bien sûr, les projets de modification artificielle du climat. Vous verrez le fameux projet visant à interposer entre le Soleil et la Terre une sorte d'immense bouclier composé de dizaines de milliers de satellites avec des grandes ailes pour faire de l'ombre à la Terre. Vous trouverez les projets visant à répondre dans l'atmosphère des quantités énormes de suie pour constituer un filtre. Vous trouverez les projets de développer des arbres OGM mangeant le carbone, les projets de piéger et de stocker le carbone dans les puits de carbone, les projets visant à couvrir les océans avec des balles, comme des balles de tennis de couleur blanche pour faciliter la réflexion solaire. Tout sera fait plutôt que de remettre en cause les logiques dominantes. Tout est prêt. Les capitaux, on calcule déjà le retour sur investissement, les fantasmes, la foi dans la science, la foi dans le progrès, pas dans le progrès humain, dans le progrès économique, dans le progrès technique. Adapter la planète, adapter l'écologie. On l'a vu avec le projet notamment de monnaie carbone. Le projet de monnaie carbone tel qu'il a été conçu, eh bien c'est comment, effectivement, faire payer la crise environnementale aux plus pauvres. C'est un peu la même chose que les péages urbains à Londres ou à Stockholm. Comment vider les rues des voitures des plus pauvres pour que les riches puissent rouler plus vite. Adapter la planète, adapter l'écologie, adapter également l'humanité. Adapter l'humanité, il y a aujourd'hui tout un débat important qui est en train de se développer autour de ce qu'on appelle le transhumanisme. Le transhumanisme, ça mobilise des gens aussi bien de droite, comme Alain Madelin, que des gens de gauche, comme Jacques Attali. Et Madelin et Attali nous disent l'humanité telle qu'elle est, avec ses limites, ses faiblesses, n'est plus adaptée à la société. Il faut aller vers une mutation de l'humanité dans quatre directions. Première mutation, c'est le passage de l'homo sapiens que nous sommes au robot sapiens. L'individu appareillé. Là encore, avec la meilleure intention du monde, ça permettra de rendre la vue à l'aveugle. Mais ce qui est en jeu là derrière, c'est l'idée de l'homme augmenté. Et c'est vrai qu'il existe aujourd'hui dans le marché des équivalents techniques pour l'ensemble des organes humains. Deuxième révolution qu'on nous annonce, c'est le passage de l'homo sapiens à l'homme pharmaceutique. Grand consommateur de médicaments et de substances d'amplification cognitive. Les grands spécialistes nous disent on pourra bientôt décrypter la formule chimique du sentiment amoureux et donner ce sentiment à volonté. Fin de citation. Idem pour la jalousie, la colère et autres. C'est un bonheur sur prescription. Là encore, avant même de savoir si c'est réalisable, est-ce souhaitable, veut-on aller dans cette direction? Troisième mutation qu'on nous annonce, c'est le passage vers une quasi-immortalité, avec deux écoles, d'un côté, par l'usage des nanotechnologies, un petit breuvage nanotechnologique tous les 10 ans, ça permettrait de nettoyer un certain nombre d'organes, de remettre à neuf l'organisme. Et puis, on a aussi des équipes qui fantasment sur la possibilité de télécharger notre mémoire sur un disque dur, et pour peu qu'on ait quelques clés de sauvegarde, il y a toujours quelque chose qui nous subsisterait. Et puis, on a les tentations eugénistes. On a aujourd'hui deux dangers. On a d'un côté ce que dénonce Jacques Testard. Jacques Testard, donc le grand biologiste français, qui nous dit ce qui nous menace pour demain matin, c'est le tri des embryons humains. Et là encore, pour la meilleure intention du monde, ça va permettre de normer l'humanité et d'éliminer les pathologies considérées comme les plus inacceptables. Mais le jour où on aura éliminé ces pathologies, demain c'est le fait d'avoir les oreilles décollées qui deviendra inacceptable. Et puis il y a à côté ce que dénonce l'équipe de Philippe Goddard, après les OGM, c'est la tentation de passer, c'est pas encore techniquement possible, aux humains génétiquement modifiés. Mais là encore avec la meilleure intention du monde. Il suffirait de faire muter la population pour qu'au lieu qu'on consomme simplement 40% des nutriments qu'on absorbe, on puisse monter à 60, 70, 80%. Miracle écolo. Il y a deux exemples que l'on peut donner pour comprendre ce qu'est ce capitalisme vert. Le premier projet qui a reçu une multitude de prix, c'est le projet XSEED4000. Ce projet vise à construire dans la baie de Tokyo un bâtiment qui serait plus élevé que le principal sommet japonais. Plus de 4000 mètres de haut, 600 étages. 1 million de personnes qui vivraient en permanence. Et on nous dit que c'est super écolo, puisque l'énergie serait obtenue par, je dirais, les nanotechnologies, donc au moyen de l'éolien et du solaire. Mais là encore, avant de savoir si c'est réalisable, veut-on vivre de cette manière-là? La société qui est à l'origine de ce projet, c'est celle qui a construit le métro à Tokyo et qui est en train de creuser le tunnel sous le Bosphore. On n'a pas affaire à des enfants de cœur, mais à des amateurs. Le deuxième grand projet qui vient d'être primé, c'est le projet Delta Park, conçu par des ingénieurs agronomes néerlandais. Une sorte de super ferme écolo, une ferme dans la ville. Oui, une ferme capable, elle seule, de nourrir 1 million de personnes. Le bâtiment, 1 kilomètre de long, 400 mètres de haut, 60 étages. Une batterie de 250 000 poules pondeuses, 1 million de poulets de chair, 300 000 porcs, des dizaines de milliers de saumons dans des piscines lacs souterrains. Et on vous dit c'est écolo parce que l'énergie serait obtenue par fermentation des excréments d'animaux utilisés sous forme de biogaz. Là encore, la bonne question, c'est de savoir si on veut nourrir la planète avec 400 000 agro-managers de ce type ou avec 1,5 milliard de petits paysans. Rappelez-vous toujours qu'à l'échelle planétaire, nous avons aujourd'hui 26 millions de paysans qui ont un tracteur, 250 millions qui utilisent la force animale et plus d'1 milliard qui n'ont que la force musculaire. Cessons de regarder le monde à travers nos petites lunettes. Avant d'exposer ce que la décroissance peut proposer face à cette barbarie qui vient, qu'est-ce que la décroissance n'est pas ? La décroissance, tout d'abord, c'est pas le retour en arrière. Même si la bougie, c'est fantastique pour les repas amoureux, ce que prônent les partisans de la décroissance, c'est la stratégie du pas de côté. C'est-à-dire la société, d'après la voiture, c'est pas le retour à la calèche, elle est à inventer. La décroissance, c'est pas non plus la décroissance de tout pour tous. Il y a des choses qui vont devoir croître. Il y en a d'autres qui vont devoir décroître. Mais je crois qu'il faut avoir le courage d'ajouter que dans nos pays riches, cette décroissance équitable et sélective se fera dans un contexte global de décroissance. Il va falloir apprendre à vivre beaucoup mieux, c'est un souhait, c'est un pari, avec moins. Mais même chez nous, il y a des gens qui ont besoin d'avoir plus. Même chez nous, il y a des gens qui n'ont pas le nécessaire pour être au-delà de la seule survie. Et puis la décroissance, ce n'est pas le développement durable non plus. Le développement durable, c'est pas un concept scientifique. Le développement durable, c'est l'idéologie dominante du moment. Et comme le disait Marx, repris par Bourdieu, on peut craindre que l'idéologie dominante soit à un moment donné l'idéologie des dominants. Mais rassurez-vous, la décroissance, c'est pas plus un concept scientifique. La décroissance, c'est un mot au but, qui sert à décoloniser notre imaginaire et à ouvrir des champs sémantiques, des champs oniriques, des champs sociaux, des champs politiques différents. Le développement durable, finalement, il a connu deux courants. On a eu tout d'abord le développement durable, allez, à la Nicolas Hulot, la révolution du brossage de dents, l'importance des petits gestes personnels. Ce développement durable à la Nicolas Hulot, il avait un grand avantage pour le système, c'était la dilution de la responsabilité. Tous coupables du smicard au PDG. Mais ce développement durable à la Nicolas Hulot, il avait une limite pour le système. c'est qu'il ne permettait pas suffisamment de vendre des technologies propres. Et aujourd'hui, le développement durable qui a le vent en poupe, c'est le développement durable à la Claude Allègre ou à la Laurence Parisot. Lorsque Laurence Parisot, la patronne des patrons en France, la patronne du MEDEF, prend le temps d'écrire un ouvrage sur l'écologie qui s'appelle « Besoin d'air », elle nous dit « un peu de croissance pollue, beaucoup de croissance dépollue ». C'est-à-dire qu'elle propose d'en reprendre pour un tour. C'est-à-dire globalement, elle nous dit « oui, c'est vrai, on a bousillé la planète, mais promis juré, on ne le fera plus ». Parce qu'à partir d'un certain niveau de connaissances techniques scientifiques, on peut aller vers une économie décarbonée. On peut aller vers une économie dématérialisée. Fumisterie totale. Et le pape du développement durable en Europe, Dominique Bourg, celui qui a été l'auteur des grands discours du président Chirac sur l'écologie, celui qui a été l'imminence grise du Grenelle de l'environnement, a pondu cet été un papier dans lequel il dit « le développement durable, c'est une illusion. Il n'y a pas de dématérialisation, il n'y a pas de décarbonisation à la hauteur. » Et il s'est rallié à la décroissance, alors avec une conception de la décroissance qui n'est pas la mienne. Lui, c'est une décroissance projet, moi c'est davantage une décroissance, lui c'est une décroissance contrainte, moi c'est davantage une décroissance désir ou projet. Et lorsque Claude Allègre, l'ex-ministre ex-socialiste, nous dit qu'il faut passer d'une écologie dénonciatrice et culpabilisatrice à une écologie réparatrice, ce qu'il propose en fait, c'est rien d'autre qu'un capitalisme vert, plus ou moins moralisé, plus ou moins régulé. Alors si la décroissance n'est pas ça, qu'est-ce que ça peut être? Je dirais que la décroissance, c'est trois choses. C'est tout d'abord, et je vais passer rapidement sur les deux premiers aspects, la simplicité volontaire. Le fait d'adopter un mode de vie qui soit conforme à nos valeurs. Pour certains, ça veut dire ne pas avoir de voiture, ne pas avoir de téléphone portable, choisir, et je dis bien choisir, de ne pas travailler plus que les besoins qu'on estime avoir. La simplicité volontaire, c'est indispensable, mais on ne ferait que ça. Non seulement ça serait insuffisant, mais ça pourrait être dangereux. Ça serait insuffisant déjà parce que, à quoi ça servirait d'être un certain nombre à se faire plaisir? Parce qu'il y a du bonheur à ne pas être victime de l'agression publicitaire ou à échapper au dictat de la mode. Il y a du bonheur à ne pas être un forçat du travail et de la consommation. Mais à quoi ça servirait de se faire plaisir si les logiques dominantes restent en place? Et puis il y aurait un danger. Ce serait de passer d'un discours politique à un discours moraliste. Et c'est vrai que dans les milieux de la décroissance, il y a un certain nombre d'amis qui jouent à plus décroissant que moi, fumeurs, qui se veulent les nouveaux parfaits, les nouveaux cathares. Or, c'est pas en culpabilisant qu'on peut changer les choses, c'est en donnant envie de changer. D'où naissent d'un deuxième niveau les expérimentations collectives. Tout ce qui se bricole dans les marges, dans les franges de la société, qu'il s'agisse du renouveau actuel du mouvement coopératif, coopératif de production, de distribution, de consommation, d'habitation, notamment pour le troisième et le quatrième âge, qu'il s'agisse de l'éducation populaire, qu'il s'agisse des AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, ou du réseau pour des semences paysannes, qu'il s'agisse aussi de tout ce qui se bricole parmi les gens de peu. Je vais raconter une petite histoire. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré dans la banlieue lyonnaise un groupe de femmes qui était vraiment tout en bas dans la société. Elle n'avait même plus les moyens de s'acheter les produits indispensables sur le plan alimentaire et ménager. Donc elles ont commencé à mutualiser leurs achats, à acheter à plusieurs leurs barils de lessive et leur lot de paquets de pâtes. Et en faisant ça, elles ont redécouvert le plaisir et l'importance de la rencontre, du partage. Elles se sont invitées, elles ont redécouvert le plaisir de cuisiner, elles ont fait voir leur municipalité. Et elles ont demandé un morceau de terrain pour faire un jardin, partagé. Et ensuite, elles ont créé une association pour venir en aide aux autres femmes. Je dis que ces femmes ne sont pas simplement dans le faire de nécessité vertu. Elles ne sont pas simplement dans la survie. Émergent à ce moment-là des formes de rapport aux autres, à soi, à la vie, qui peuvent être effectivement tout à fait profitables à l'ensemble de la société. Troisième point que je développerai davantage, c'est la décroissance comme début d'un commencement de ce que pourrait devenir demain, je suis très prudent, un nouveau projet politique. Pour moi, le moment est venu de coupler un certain nombre de mots au but l'antiproductivisme, la décroissance, avec des mots chantiers, la relocalisation contre le mondialisme, le ralentissement contre le culte de la vitesse, la coopération contre l'idéologie de la concurrence, la planification démocratique contre le tout marché, le choix de la simplicité volontaire contre le mythe de l'abondance, la gratuité contre la marchandisation. Je prendrai deux exemples. Premier exemple, la question du ralentissement. Le ralentissement, c'était le thème du premier grand colloque international que nous avons organisé avec la ville la plus pauvre du département du Rhône, la ville de Vaux-en-Velin, sur le thème ralentir la ville, non pas pour des raisons esthétiques, ni énergétiques, mais pour la rendre aux plus pauvres. Parce qu'on sait depuis les travaux, notamment de Paul Virilio, que la vitesse est toujours génératrice d'inégalités sociales. Plus une société accélère, plus c'est au détriment des plus faibles. En un siècle, on a mis toute notre intelligence collective à inventer des prothèses techniques accélérées. Et on arrive à cette dictature des temps rapides sur les temps lents et des temps courts sur les temps longs. Eh bien, il faut mettre la même intelligence pour inventer des prothèses à ralentir. Prothèses techniques, le bridage des moteurs par exemple, les prothèses sociales, l'association slow food, alimentation lente, par rapport au néfaste food, le réseau international des villes lentes, ou les villes en transition. C'est plusieurs centaines de villes qui, à l'échelle européenne, ont choisi de ne pas grandir, ont choisi de ralentir, ont choisi déjà de rendre aux anciens toute leur place dans la société. Notre société du toujours plus repose sur un véritable racisme anti-vieux. Rendre aux anciens leur place dans la société, ça veut dire tout simplement en faire de nouveau les symboles de la lenteur. Mais je dirais que ce sont les enfants qui en ont besoin. Prenez ces enfants de 8 ans qui ont un emploi du temps de cadre supérieur et qui n'ont même pas le temps de s'ennuyer, alors que l'ennui est essentiel pour pouvoir se structurer. Prenez ces gamines de 10-12 ans qu'on déguise en Lolita et à qui on vole le temps spécifique de leur enfance. Ces enfants qu'on fait grandir trop vite, ça devient ensuite des ados adultes, des adolescents, parfaitement adaptés à une société boulimique, à une société de consommation. Donc faisons du ralentissement un grand enjeu de société. Et ça passe effectivement par toute une série de propositions qui figurent notamment dans la charte internationale des villes lentes. Je prends deux exemples. Ça veut dire par exemple de prôner le droit à la nuit. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, diminution ou extinction de l'éclairage public. Plus d'une centaine de villes en France pratiquent aujourd'hui cette politique. Il ne s'agit pas tant, là encore, d'un souci énergétique. Il s'agit de rendre au temps sa dimension qualitative. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes aussi foncièrement opposés au travail dominical et aux nocturnes commerciaux. Rendre au temps sa dimension humaine. Le temps n'est pas simplement un temps économique et un temps mécanique. Deuxième exemple, qui est bien sûr le fond même de la proposition de la décroissance. On peut reprocher tout ce que l'on veut à cette société du toujours plus, il faut reconnaître que c'est une société diablement efficace. Nous, nous sommes tombés dans la marmite de la société de consommation il y a 70 ans, et on en veut encore. Et les peuples qui ne sont jamais tombés ne demandent que ça. Donc tant qu'on n'aura pas quelque chose d'aussi fort, sur le plan humain, sur le plan anthropologique, que le toujours plus, on n'y arrivera pas. Et à mes yeux, la seule chose qui soit à la hauteur, c'est le partage, c'est le don, c'est la gratuité. Parce que la gratuité, on l'a chevillée au cœur. C'est à la fois le souvenir du paradis perdu, du sein maternel. Ce sont les relations amoureuses, amicales, associatives. Ce sont les services publics. Ce sont les biens communs. Le bon combat, notamment vis-à-vis des plus pauvres, pour le XXIe siècle, c'est pas la question du pouvoir d'achat. C'est de défendre et d'étendre la sphère de la gratuité. Mais c'est bien sûr une gratuité économiquement construite, politiquement construite, culturellement construite. Tout ne peut pas être gratuit, car la gratuité a un coût. Je dirais raison de plus pour faire les bons choix. Lorsque, aujourd'hui, avec une centaine de municipalités en France, on s'engage dans ce combat pour la gratuité, en posant la question aux citoyens, voulez-vous que le stationnement soit gratuit pour les voitures ou préférez-vous que la cantine soit gratuite pour les gamins. C'est une façon de refaire de la politique autrement. C'est une façon de rendre la parole aussi à ceux qui en sont privés. Et ce que nous proposons, en fait, c'est un nouveau paradigme. C'est ce qu'on appelle la gratuité de l'usage face au renchérissement ou à l'interdiction du mésusage. Il n'y a pas de définition scientifique ou objective du bon usage ou du mésusage. La définition, elle est politique. C'est ce qu'on veut en faire. Ça semble compliqué, vous allez voir, c'est très simple. Pourquoi paye-t-on son eau le même prix pour faire son ménage et pour remplir sa piscine privée? Ce qui est vrai pour l'eau vaut bien sûr pour l'énergie, pour le déplacement, pour le logement. Le législateur sera bien nous inventer des systèmes de prix différents en fonction des niveaux de consommation, des types de consommation. Mais voyez très bien qu'on ne ferait que ça. Ça serait enfermer les pauvres dans le nécessaire, pendant que les riches pourraient se payer le superflu. C'est la raison pour laquelle nous disons, la première des décroissances, ça doit être la décroissance des inégalités sociales. Et lorsque le Nouvel Obs titrait récemment, l'objection de croissance, c'est le retour des partageux, je dois dire que oui, pour une fois, le Nouvel Obs a raison. C'est-à-dire que nous, ce que nous considérons, c'est que, finalement, le gâteau ne pouvant plus grandir, on ne peut plus refouler la grande question historique, qui est la question du partage. Traduction politique, nous sommes pour l'adoption d'un revenu garanti, couplé à un revenu maximal autorisé. Ce revenu garanti pourrait être donné de trois façons. Il pourrait être donné d'abord en partie en monnaie nationale, en euros. Il pourrait être donné aussi sous forme de monnaie locale, régionale, à créer, pour faciliter la relocalisation de nos activités économiques. Sur le modèle de ce que fait par exemple la Suède, qui distribue une partie de l'aide sociale sous forme de bons d'achat sur des produits locaux. Cette monnaie régionale pourrait être aussi une monnaie fondante, c'est-à-dire perdant une partie de sa valeur avec le temps. Actuellement, en France, c'est peut-être le cas en Belgique, on a un foisonnement d'initiatives locales, de création de monnaie locale. Ce qu'il faut, c'est que les collectivités territoriales s'emparent de ce projet pour lui donner effectivement davantage de consistance. Une partie en monnaie nationale, une partie en monnaie locale et une partie en droit de tirage sur les services publics. C'est-à-dire tant de kilowattheures d'électricité, tant de mètres cubes d'eau, gratuité des transports en commun, tant de kilomètres sur les lignes nationales. Nous allons organiser dans quelques semaines un deuxième colloque entre le sarcophage et la communauté d'agglomération des Lacs d'Essonne et la fondation France Liberté de Daniel Mitterrand sur le thème de la gratuité des services publics locaux. Et un certain nombre de municipalités de la banlieue parisienne, mais de la banlieue particulièrement populaire, ont décidé non seulement de réinstaller des fontaines d'eau gratuites, mais de donner à chacun gratuitement la quantité d'eau nécessaire pour pouvoir vivre. Mais je dirais que ce n'est qu'un début. C'est un levier. Le grand combat, ce n'est pas le combat pour le pouvoir d'achat. C'est le combat pour défendre et étendre la sphère de la gratuité. Et ça, j'allais dire, pour être court, pour deux raisons. Première raison, c'est une raison anthropologique. On ne peut pas avoir une société sans postuler une gratuité première, sans postuler un don premier. Nous héritons déjà du langage. Et j'ai été horrifié, au moment des dernières élections en France, d'entendre un certain nombre de listes politiques qui se pensaient de gauche dire « Nous, on veut bien la gratuité des transports en commun pour ceux qui ne peuvent pas payer, gratuité pour les chômeurs, mais ceux qui peuvent payer doivent payer ». Oui, mais si on dit ça pour les transports en commun, pourquoi ne pas le dire pour l'école ou pourquoi ne pas le dire pour la santé? Il y a deux conceptions possibles de la gratuité. Il y a soit la gratuité d'accompagnement du système, la gratuité pour les pauvres, la gratuité pour ceux qui ne peuvent pas payer. Et cette gratuité-là, elle ne va jamais sans une certaine condescendance, mais elle ne va jamais aussi sans un certain piquage. Est-ce que vous êtes un vrai bon pauvre? Est-ce que vous êtes un bon vrai chômeur? Puis il y a une deuxième gratuité. Une gratuité émancipation. Ce qui est beau avec l'école publique, c'est qu'on ne demande pas au gamin s'il est gosse de riche ou gosse de pauvre. C'est qu'il est accueilli en tant qu'enfant. Et ce qui est vrai pour l'école, pourquoi ça ne serait pas vrai pour les quatre grands domaines qui sont les domaines vitaux. Le logement, l'alimentation, la santé, l'éducation, culture. Alors je dirais que ces quatre grands domaines, on les range généralement davantage derrière les valeurs féminines. Dites féminines, je n'ai pas du tout une conception essentialiste des choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir, effectivement, si on veut rentrer en décroissance, faire une révolution anthropologique. Il va falloir changer fondamentalement nos valeurs. Je dirais, pour conclure, il n'y aura pas de revenu garanti s'il n'y a pas en même temps un revenu maximal autorisé. Le premier à avoir parlé de revenu maximal autorisé, c'est le président Roosevelt, qui pendant la Seconde Guerre mondiale a fait adopter des taux de fiscalité totalement confiscatoires à plus de 97% sur les tranches supérieures. Et si je suis partisan d'un revenu maximal autorisé, c'est pour deux raisons. Première raison, bien sûr, c'est une raison purement comptable, c'est pour financer le revenu garanti. Le revenu garanti, d'ailleurs, c'est pas la fin du travail. C'est la fin du travail obligatoire. C'est la fin du travail aliéné. C'est la possibilité, enfin, d'un travail libéré. Et puis, je crois que ça inverserait le rapport de force. Ça permettrait que les gens soient plus exigeants en matière de conditions de travail, mais aussi en matière d'utilité de ce qu'ils font, de ce qu'ils produisent. Je dirais, revenu maximal, un, pour des raisons comptables, ça a été chiffré, notamment par Patrick Vibray à la Cour des comptes. Le problème, il n'est pas comptable. On peut verser un revenu garanti. Je dirais, la Namibie, pays qui connaît les plus grandes inégalités sociales, a adopté au printemps dernier le principe d'un revenu garanti trop faible, mais le principe, c'est pas un principe qui appartient à des pays riches. C'est un principe qui concerne d'abord, à mes yeux, les pays pauvres. Puis la deuxième grande raison pour laquelle je suis pour un revenu maximal, c'est parce que je crois que les écarts aujourd'hui de richesse, de revenus, de patrimoine, sont devenus tels qu'ils représentent une menace pour l'unité même du genre humain. J'ai été très marqué il y a 2 ans par l'intervention lors d'une convention de l'Union européenne, par une intervention du ministre de la Santé du Brésil, qui disait « si on poursuit les tendances actuelles en matière d'inégalité d'accès à l'eau, à l'alimentation, à la santé, en matière d'inégalité d'espérance de vie, on ne pourra bientôt plus parler de l'humanité comme un genre au singulier ». Et rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure sur les propos sur le transhumanisme. Cette idée d'en finir avec l'humanité telle qu'elle est et d'aller, pas pour tout le monde, vers une post-humanité, vers une surhumanité. Regardez dans le domaine de l'urbanisme. Comment aujourd'hui, on a d'un côté des ghettos pour pauvres, d'un autre côté des ghettos pour riches. Ghettos pour pauvres, la forme urbaine qui se développe le plus vite à l'échelle mondiale, ce sont les bidonvilles. 1 milliard d'humains dans des bidonvilles, et on estime que dans 50 ans, si on ne fait rien, si on poursuit les tendances, ça sera 1,7 milliard d'humains dans des bidonvilles. Ghetto pour pauvres, à côté ghetto pour riches, bien sûr ce foisonnement de villes privées, mais aussi dans nos bonnes villes républicaines françaises, les quartiers riches qui refusent de plus en plus d'être reliés aux quartiers pauvres par exemple les transports en commun, ou de recevoir des équipements collectifs comme des piscines parce que ça attirerait une population qui ne souhaite pas voir. Urbanisme, apartheid urbain, apartheid social. Et je répète, la première des décroissances, c'est une décroissance en faveur des pauvres. C'est effectivement la nécessité de partager le gâteau, et donc pour ça d'en changer la recette. Et ce qui me rend optimiste, et je terminerai là-dessus, c'est 2 choses. 2 choses paradoxales. C'est tout d'abord la crise écologique. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'a plus le choix. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on fonce dans le mur. Il y a ceux qui pensent qu'il est possible de sauter par-dessus le mur, le courant du capitalisme vert, du transhumanisme, et sauf qu'après ce premier mur, il y en a un deuxième encore plus grand, et ceux qui pensent qu'il est nécessaire de faire un pas de côté. 2e raison qui me rend optimiste, là encore de façon un peu paradoxale, c'est la crise sociale. Le grand phénomène du XXe siècle, c'était le développement des classes moyennes, avec son versant négatif, la casse des cultures populaires. Ce que Accardo appelle le petit bourgeois gentilhomme. Mais ce que nous disent les mêmes sociologues, c'est ce qui nous menace aujourd'hui, c'est la démoyennisation de la société. La génération de mes étudiants a bac plus 5 et 1000 euros. Cette démoyennisation de la société, ça peut être une chose effroyable. Si ça développe le cynisme, si ça développe le repli sur soi, si ça développe la démotivation. Mais ça peut faire aussi qu'une génération entière n'aura plus foi dans ce système. Ça peut faire aussi qu'une génération entière sera disponible pour un autre projet de société. Pour un projet de société qui mette l'humain au cœur de sa réflexion. Je dirais pour conclure que ce qui me semble caractériser notre société, c'est l'inversion du sacré et du profane. Nous n'avons de cesse de profaner le sacré que nous étions donné, un certain nombre de valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité, le partage, les services publics, les biens communs, le génome humain. Et à côté de cette profanation de notre sacré, nous n'avons de cesse de sacraliser le plus profane, le culte de la croissance, le culte de la consommation, le culte du paraître, le culte de l'argent, si possible facile. Le fait de sacraliser, c'est-à-dire de rendre intouchable l'ordinaire. Chaque fois qu'on dit, mais les partisans de la décroissance sont des fous. C'est-à-dire qu'on n'accepte même pas qu'il y ait de débat. Le fait de sacraliser l'ordinaire, c'est la définition même du totalitarisme que donnait la grande philosophe américaine Hannah Arendt. Et ma grande crainte, c'est qu'on en ait fini au XXe siècle avec deux totalitarismes pour succomber au XXIe siècle un totalitarisme peut-être plus soft en apparence, mais qui n'en est pas moins barbare. Et en même temps, on n'est pas démunis, je terminerai vraiment là-dessus, par un exemple concret. Nous sommes parvenus, depuis un mois, à créer en France un débat sur qu'est-ce qu'il faut pour nos gamins, et notamment qu'est-ce qu'il faut pour nos gamins dans les établissements dits sensibles, traduction de ce jargon officiel, c'est-à-dire les établissements les plus difficiles, là où les gamins sont en souffrance. La réponse officielle, à droite comme à gauche, c'est la fuite en avant technologique, le tout informatisation, la wifi-isation des établissements. Eh bien, nous, ce qu'on dit, c'est que dans ces établissements, il faut innover par de la créativité, c'est-à-dire, il faut mettre, par exemple, deux adultes par classe. Parce que ce dont manquent, effectivement, ces enfants, c'est pas de technologie, c'est de modèle humain. Et je crois que quand on dit remettre l'humain au cœur de notre réflexion et au cœur de nos engagements, eh bien, ça renvoie, effectivement, à une multitude de choses. Voilà. Je vous remercie pour votre patience.